Et bienvenue à l'émission. On va parler d'un sujet qui va vraiment toucher un peu tout le monde parce que on entend souvent des histoires. J'ai vendu ma maison, j'ai fait de l'argent, j'ai investi en 1985 et j'ai fait beaucoup d'argent en 2015. Et on entend donc toutes sortes d'anecdotes sur l'immobilier. Puis comment faire de l'argent en immobilier? Comment bien investir son argent? Mélanie, t'es courtière immobilière, mais t'es aussi investisseuse immobilière depuis les années 2000.
Ben oui, depuis plusieurs années. Puis c'est ça qui m'a amené tranquillement vers le métier de courtier immobilier, là. Tu sais, en investissant, j'ai pris mon cours pour en apprendre davantage sur ce métier-là parce que, oui, j'ai eu des immeubles et j'avais pas nécessairement beaucoup d'argent, là, pour commencer. J'avais 22 ans, là. J'avais rien devant moi. Mais en m'entourant de bons conseillers, j'ai réussi à avoir des stratégies. J'avais pas une grosse mise de fonds. J'avais peu de sous pour commencer. Et il y a moyen de rapper. Il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent nous permettre d'accéder à la propriété.
Oui.
Puis je dirais aux gens que la première propriété avec laquelle vous pouvez faire de l'argent, c'est la vôtre. T'sais, même en ce moment, vous achetez à fort prix, c'est possible, mais on met quand même de l'argent de côté quand on achète la propriété puis qu'on la garde assez longtemps. C'est sûr que si vous revendez l'année prochaine, là, il y a tous les droits de mutation que vous payez, la fameuse taxe de bienvenue, les frais de déménagement. On compte à peu près un 10-15 000, là, juste déménager la première année, tous les frais qui entourent un déménagement. Mais après ça, votre première propriété, là, supposons que vous la gardez là, avec les années.
Combien de temps à peu près, là?
Ça dépend. Mais même après cinq ans, là, on peut faire refinancer, avoir d'autres projets, tout dépendant de votre santé financière aussi, là. C'est sûr que si vous dépensez allègrement toutes vos économies, ça va être difficile. Mais si vous êtes capable d'en mettre un petit peu de côté, de faire vos paiements hypothécaires, et éventuellement, vous êtes un petit peu sage quand même, là, puis de faire évaluer votre propriété après un certain nombre d'années, vous pourriez dégager une mise de fonds intéressante pour acheter autre chose. Et c'est souvent ça, en fait, l'effet de levier, c'est souvent ça qui va aider les gens, c'est la première qui est la plus difficile. Mmh. Après ça, là, et puis, j'aimerais bien entendre des histoires de gens qui ont perdu de l'argent en immobilier. C'est assez rare, là. C'est assez rare. Donc, quand on achète au bon prix, c'est là qu'on fait les sous. C'est sûr qu'en ce moment, tu vas me dire, Jeffrey, mais aujourd'hui, on achète à fort prix. Oui, mais sur le long terme, l'immobilier, quand même, nous donne un bon rendement, un bon investissement. Les gens qui ont acheté en 2000 ou qui ont acheté avant, oui, il y en a qui ont peut-être perdu des sous à une certaine époque, mais depuis les années 2000, ça va bien. Est-ce que ça va redescendre à un moment donné? Personne ne le sait, personne ne peut prévoir. Mais sur le long terme, l'immobilier, c'est une valeur intéressante, une valeur refuge. Sur le long terme, on fait toujours de l'argent en immobilier ou presque. J'aime pas dire toujours, mais faut faire attention de pas surinvestir. Par exemple, quand tu achètes une propriété, faut pas mettre trop d'argent non plus. Si vous avez une maison dans un quartier moyen puis que vous faites une cuisine à 100 000 à l'intérieur, ben vous récupérerez pas votre argent. Donc, faut être intelligent dans les dépenses entourant la propriété puis éventuellement, vous allez en faire des sous.
Donc, là, la première méthode qu'on a soulevée, ça prend au moins 5 ans. Faut être patient, ça peut être davantage aussi, c'est sûrement plus long que ça. Et là, c'est d'utiliser ta première maison comme un levier pour acheter quelque chose d'autre. Quand t'as un bon salaire, t'es correct, t'es dans une situation financière convenable, t'es capable de payer tes hypothèques, parce que là, tu vas t'en ramasser une, deux, trois. Puis là, ça a plus de limite, là, à un moment donné, là.
C'est comme ça que ça commence. C'est qu'en fait, disons qu'on a notre propriété, l'effet levier, la première autre propriété qu'on achète, là, en dehors de notre maison, elle est très importante. Parce que c'est elle que si elle est payée au bon prix, vous avez des bons revenus, bon, peu importe la propriété, il y a différents types, on va y revenir, là. Mais si vous faites un bon achat, c'est sûr qu'à terme aussi, les loyers que vous générez dans cet immeuble-là vont vous permettre de payer l'immeuble. Là, vous allez dégager, vous allez payer du capital et vous allez pouvoir effectivement, à un moment donné, réutiliser cet effet de levier-là sur cet immeuble-là. Donc, des gens qui ont un salaire correct, qui n'ont pas besoin de faire des millions par année, donc un salaire décent, bien géré. Donc, il faut bien se gérer parce que des gens qui ont de très bons salaires mais qui gèrent mal leur argent aussi puis qui sont pas capables de dégager un sou d'économie, là.
Oui.
Donc, faut quand même avoir un certain contrôle sur ses dépenses, mais ça prend pas non plus un revenu faramineux pour faire des sous en immobilier.
Bon, parfait. Alors, ça, c'est le début, là. Disons, l'étape larvaire. Donc, ta maison, t'attends, tu payes du capital. Après ça, on pourra, par exemple, te prêter une marge de crédit par rapport au capital que tu as payé. Et c'est ce qu'on appelle le levier. Oui. Très bien.
Et puis les intérêts sur ce que vous allez dégager, en fait, sur votre propre maison, si vous faites une marge hypothécaire pour acheter autre chose et que vous louez cet autre immeuble-là, ben les intérêts de votre marge hypothécaire vont passer dans les dépenses. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez le dégager sur votre rapport d'impôt par la suite.
Ta location sera diminuée là à 50 % sur ton ratio d'endettement. Tu sais, il y a plein de stratégies comme
toutes
ça.
Sortes,
là.
Oui, puis là, chaque dossier est différent.
Oui. Ben, oui. Faut négocier, faut vérifier, faut calculer parce qu'il y a tellement de frais. Tu sais, je te parlais du Mexique hier dans des municipalités où t'arrives, t'achètes une propriété, puis ça peut être un véritable investissement sans trop d'obstacles parce que t'as pas les taxes municipales.
Ouais.
Ici, t'as des taxes, c'est récurrent à chaque année. Puis au début, ah ouais, il t'en a encore plus avec la taxe de mutation.
Oui.
Quels sont les autres types? Là, on a parlé de la maison, puis tu peux mettre ta maison en location, etc. Mais les autres types d'investissements, on va faire le tour, là, mais j'aimerais ça qu'on parle des fameux plex.
Oui.
Parce que c'est, évidemment, c'est à la mode. Là.
Ben, c'est à la mode. Ça fait des années que c'est à la mode. Puis bon, il y a beaucoup de conférences qui se donnent, de stratégies, acheter des plex et tout ça. C'est sûr que le prix des plex a beaucoup augmenté dans les dernières années. Donc, il ne faut pas s'attendre au prix là, d'il y a quelques années. Avant, on pouvait acheter quelque chose là, à un prix raisonnable à la porte. Là, aujourd'hui, il faut calculer vraiment toutes les dépenses liées à l'immeuble. Est-ce que c'est un vieil immeuble? Est-ce que vous payez l'électricité des locataires ou c'est eux qui payent leurs factures? Qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans le loyer? Donc, il y a le multiplicateur de revenus bruts. Donc, combien de revenus l'immeuble rapporte par année avant les dépenses versus le prix payé? Donc, ça, c'est important, mais il faut aussi voir le revenu net parce que si vous avez un bon ratio avec les revenus annuels bruts, mais que vous avez trop de dépenses sur l'immeuble, bien là, à ce moment-là, vous ne rentrez pas dans votre argent. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, Jeffrey, d'acheter un immeuble pour lequel on rentre dans notre argent. C'est un immeuble qui se paye tout seul, là. Ça arrivait il y a quelques années. Là, en ce moment, c'est plus difficile, surtout dans la grande région de Montréal. Faut s'éloigner un petit peu. Encore là, faut être prêt à ce qui vient avec, Jeffrey. Puis ça, c'est des dépenses qu'on ne voit pas. Le temps, l'énergie, la gestion. Est-ce que vous allez vous-même faire les réparations? Est-ce que vous avez un homme à tout faire de confiance? Il faut s'entourer d'un bon plombier, un bon électricien, parce que Jeffron en parlait hier. Les dégâts d'eau dans un immeuble à logement, c'est drôle, ça arrive jamais un mardi après-midi, là, quand tout le monde est au travail ou que le plombier peut travailler. Ça arrive un jour férié, un samedi soir, en plein souper de Noël. Nous, on a déjà eu un dégât d'eau dans un immeuble le jour de Pâques, tu sais, fait que là, c'est sûr que ça change la journée, puis il faut y aller. On a une responsabilité par rapport à nos locataires. Donc oui, il y a moyen de faire de l'argent en immobilier, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il faut y aller avec notre personnalité. Est-ce qu'on est capable de gérer plusieurs locataires? Donc il y a une différence entre louer un condo à quelqu'un, une seule porte, condo qui est géré en grande partie par un syndicat de copropriété où il y a des frais de condo, peu d'entretien qu'on fait nous-mêmes, versus un plex où tu peux avoir, bon, disons à partir de 3, 4, 5 portes, peu importe, est-ce qu'on va le gérer nous-mêmes? Est-ce qu'on est à l'aise avec les gens ou est-ce qu'on est un peu timide? Parce que les gens qui sont trop timides ou qui n'ont pas trop de caractère, si on veut, parce que ça prend du nerf, là.
Tu peux te faire marcher sur les pieds comme propriétaire par les locataires. Tu peux te faire marcher sur les pieds. Il faut que tu prennes ta place.
Oui.
Faut pas que tu te laisses marcher dessus. Parce que c'est une relation difficile et complexe.
Il faut trouver le milieu.
Et il y a peu de recours, sauf la communication.
Exact. Non, mais je peux en témoigner longtemps. J'aurais plein d'histoires à te raconter. On a eu souvent, mon mari et moi, des problèmes avec des locataires, mais on les a toujours réglés parce qu'on parle aux gens, on a une communication avec eux. À partir du moment où il n'y a plus de communication, où vous passez pour un propriétaire qui ne s'occupe pas de ses locataires et qui néglige tout ce qu'il y a à faire dans l'immeuble, ben là, ça va être plus difficile d'obtenir ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes un propriétaire qui veille à ce que tout soit sécuritaire dans l'immeuble, je vous dis pas de refaire des cuisines neuves régulièrement parce que là, encore là, faut calculer les dépenses. Là, tu sais, c'est pas une œuvre de charité non plus d'avoir des immeubles à logement. Puis il y a des locataires qui vont avoir des attentes par rapport à ça.
Oui.
Mais pour les propriétaires, de surinvestir dans les logements, c'est de faire un cadeau aussi aux locataires parce qu'on pourra jamais augmenter les loyers de la même valeur que ce que nous, on a investi. Donc, faut y aller raisonnablement. Que ce soit propre, bien entretenu, offrir un certain service aux locataires aussi, c'est intéressant. Mais si vous n'êtes pas prêt pour cette dynamique-là, possiblement que vous ne ferez peut-être pas trop d'argent en immobilier dans ce type d'immobilier-là. Peut-être que vous seriez mieux d'acheter une porte, à la fois un condo ou des trucs comme ça, quelque chose de plus tranquille, si on veut. Mais dans le multiplex, c'est pas tranquille.
Donc, et là, tu as la location court terme, long terme. Parlons de la court terme, parce que ces temps-ci, je regarde ça chaque fois que je veux, par exemple, une petite escapade. Et là, les chalets, là, ceux qui sont propriétaires de chalets, ces temps-ci, ça a l'air de marcher leur affaire.
C'est la folie. C'est loué. C'est vraiment difficile de se trouver un chalet pour cet été. En fait, dans plusieurs régions du Québec, c'est complet. Tout ça en raison, justement, de la pandémie. On ne voyage plus. Est-ce que ça va être comme ça les prochaines années? C'est dur à prévoir parce que depuis qu'on parle de déconfinement, je peux te dire, Jeffrey, il y a pas mal de gens qui ont très hâte d'aller à l'étranger. Là, on fait rien depuis un an et demi. Donc, je sais pas si les chalets... C'est sûr que ça va toujours avoir la cote, mais là, il y en a beaucoup, beaucoup en location. Ils sont tous occupés, mais ça se peut que dans les prochaines années, il y a quand même un petit peu plus de périodes vacantes, si on veut. Et un chalet, il faut faire de la gestion un peu plus serrée à la pièce, là, parce que ça prend quelqu'un qui fait le ménage, ça prend quelqu'un pour s'assurer à chaque séjour que tout est impeccable. Donc, si votre chalet est à une heure de route et que vous travaillez beaucoup, ben ça vous prend une femme de ménage, ça vous prend quelqu'un qui veille à votre investissement. Sinon, ça donne rien. Puis, fiez-vous pas aux gens de passage pour faire le ménage, là, même s'ils vous disent, on va laisser ça propre. Ça prend un ménage par la suite, ça prend une gestion très serrée des gens qui sont sur place, aussi ne pas vous faire détester de vos voisins. Donc, si vous faites de la location court terme, faut avoir un certain contrôle sur la clientèle qui va chez vous. Donc, il y a beaucoup d'aspects à penser. Donc, oui, c'est intéressant. Si vous avez un chalet, vous voulez le louer une fois de temps en temps à court terme, c'est intéressant. Mais il y a bien des endroits, Jeffrey, qui ne permettent pas la location court terme. Donc, il y a des municipalités, il y a des, entre autres, des condos, des syndicats de condos où ce n'est pas permis et qui a une mention à cet effet dans la déclaration de copropriété. Parce qu'on peut s'imaginer que dans des condos, si on fait du Airbnb et que n'importe qui, de passage, la clientèle change à chaque semaine, ça peut être désagréable pour des gens qui habitent là à temps plein et qui voient des parties et des gens qui connaissent pas, c'est moins sécuritaire. Donc, il y a de plus en plus de projets de condos qui interdisent la location court terme. Donc, si c'est ce que vous voulez acheter, informez-vous avant parce que souvent, la location long terme est permise. Donc, si vous voulez faire un bail avec des gens réguliers, donc, il n'y a pas de souci, location long terme, mais pour la location court terme, c'est plus difficile en copropriété.
Parlons-en des condos. J'ai un ami qui, lui, comme investissement, là, c'est d'acheter des condos sur plan.
Mm-hmm.
Et puis, là, il les revend avec un profit. Puis des fois, il les revend pas longtemps après. Là.
Oui.
C'est même pas encore construit complètement. Puis il peut le revendre avec un profit. Là.
Oui, ben c'est courant. C'est courant. C'est sûr que sur plan, c'est toujours un peu moins cher. Donc oui, il y a un investissement à faire là. Si vous avez une bonne opportunité sur plan, effectivement, mais encore là, ne surinvestissez pas dans les extras. Il faut pas non plus. Il faut y aller avec de la bonne qualité, mais il y en a qui en mettent trop. Et là, c'est là qu'on perd notre investissement. Donc oui, faire de l'argent en immobilier, moi je vous dis comment aussi ne pas en perdre, là, parce que c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui vont mettre plein d'extras dans un condo parce qu'ils aiment ça eux, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à payer pour ce genre d'extra là. Donc que ce soit la qualité des poignées d'armoire, que ce soit des luminaires, que ce soit certains types de matériaux choisis dans la copropriété, et faut pas que ça diffère des autres condos non plus, faut que ça reste homogène. Si on en met trop, on va quand même perdre au final.
Tout à fait. Y a-t-il d'autres choses là? Y a-tu d'autres avenues? Il y a tellement d'avenues.
Il y a plein de choses.
Bon, on vient de faire un bon portrait quand même.
Oui, un bon résumé.
Mais surtout, là, ce que j'aimerais, c'est que les gens nous appellent. Comment vous avez fait de l'argent en immobilier?
Ou perdu
de l'argent? Êtes-vous en train de, plancher sur une stratégie pour en faire?
Avez-vous besoin de conseils, justement? Parce que moi, je l'ai expérimenté. Donc, c'est sûr que moi, j'ai jamais assisté à aucune conférence, tout ça. J'ai lu quelques livres il y a quelques années, dont les règles s'appliquent déjà à cette époque-là. Je m'en suis servie, mais aujourd'hui, la donne a beaucoup changé. Il y a des règles qui sont plus pareilles. Le financement n'est plus le même. Et si vous voulez commencer, c'est sûr que des immeubles, passer un certain nombre de portes vont être financés. Vous n'aurez pas le même taux d'intérêt, par exemple, si vous achetez un 6 logements qu'un 4 logements. Donc, les taux d'intérêt ne seront... C'est possible, à un moment donné, que vous passiez à du taux commercial. Donc, ça aussi, il faut vérifier ça parce que vous ne serez pas à du 2.2. Là. Vous allez être quand même dans le 3%. Donc, ça change quand même les dépenses. Ça revoit la stratégie, finalement. Donc, c'est sûr, quand on achète un plus grand nombre de portes, si on est capable, ça amortit, en fait, les problèmes si un locataire ne paye pas. Parce que si vous avez un duplex, il y en a un qui paye pas, ben vous avez 50% de votre immeuble qui est pas rentable. Tu sais, vous perdez le loyer de la moitié des locataires, alors que si vous en avez 6, ben c'est plus facile à amortir.
Donc, comment faire de l'argent en immobilier? On veut vous entendre. 514-790-9850, 1-866-790-9850. On revient dans un instant.